ce message, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Cette anecdote, elle s'est passée l'été dernier, lors de nos vacances en Ardèche, et notre dernière fille, qui n'avait alors que 3 ans et demi, a fait un petit peu comme ce que nous avons ressenti comme un exploit, mais c'est vrai que les parents sont jamais très objectifs avec leurs enfants. Elle a fait 6 kilomètres à pied. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments où on l'a un peu portée, mais enfin, voilà, on a eu l'impression que c'était un peu une forme de... Ça nous a étonnés. Mais il faut que je vous dise que notre petite Jeanne, en fait, il y avait quelque chose qui l'a aidé à faire ses 6 kilomètres à pied. Et ce quelque chose, c'était un petit âne qu'on avait loué pour l'occasion. Et il y avait plus d'enfants que d'âne, et évidemment, il fallait attendre son tour pour monter sur l'âne et pouvoir être porté quelques instants. Et je m'excuse parce que l'histoire est un peu triviale, mais c'est juste pour illustrer ce fait que ce qui l'a aidé, je crois, à faire cette distance, c'était cette perspective que bientôt elle allait pouvoir monter sur l'animal. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le deuxième message d'Agé, le Seigneur va nourrir l'espérance des bâtisseurs dont on va voir qu'ils sont découragés. Et dans le premier chapitre d'Agé, Lucien nous a effectivement expliqué qu'il y avait eu cet appel au cœur du peuple et que le peuple s'était remis en route. Mais on va voir assez rapidement que dans le deuxième chapitre, il y a le découragement qui s'installe, qui est là. Et le Seigneur Jésus Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, va s'empresser d'encourager son peuple. Il va le faire à 3 reprises à travers 3 messages. Alors, très rapidement, le premier message, il est délivré le 17 octobre 520 avant Jésus-Christ. Les bâtisseurs sont découragés parce qu'on se souvient de la gloire et de la magnificence du temple de Salomon. Et face à ce qui semble dérisoire dans les travaux, face à la difficulté, les plus anciens, les plus âgés se souviennent et on partage les sentiments, et là il y a une profonde source de découragement. Et on verra donc comment Dieu va encourager son peuple à cette occasion. Le deuxième message, le deuxième et le troisième message sont délivrés à la même date, le 18 décembre 520 avant Jésus-Christ. On a donc trois messages qui sont délivrés en 3 mois. C'est assez court. Et donc le deuxième message, personnellement je l'ai trouvé assez difficile, j'essaierai de vous dire ce que j'ai compris et les enseignements qu'on peut en tirer. Il commence avec un échange un peu technique entre Agé et les sacrificateurs, et puis on a l'impression que la situation du peuple ne convient toujours pas, mais en toute hypothèse, j'essaierai de dire un petit peu comment on peut comprendre. Il y a ce message d'encouragement, cette assurance que la bénédiction de Dieu repose sur le peuple. Et puis, le troisième message, il est encore différent, c'est un message personnel qui est adressé à Zorobabel en tant que conducteur de ce peuple. Et on y apprend qu'il est réintroduit dans la lignée royale du Messie, parce que son grand-père Jéhoiakim en avait été exclu. Et donc là aussi, c'est un message plus personnel, mais aussi un message d'encouragement qui est adressé donc à Zorobabel. Alors, avant qu'on rentre proprement dit dans la lecture et puis dans l'étude de ces 3 messages, il est nécessaire que l'on prenne un petit peu de temps, environ 10 minutes, j'espère arriver à tenir dans ce temps, mais parce que la nature du texte que nous étudions aujourd'hui, elle est assez particulière. C'est une prophétie de l'Ancien Testament qui s'adresse au peuple d'Israël à un moment particulier de son histoire, et manifestement c'est pas un texte que l'on peut s'approprier comme cela de façon directe. Et donc je souhaite qu'on prenne un petit peu de temps pour essayer de répondre à cette question: comment est-ce que nous devons aborder ce texte? En quoi est-ce qu'il nous concerne aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut se l'appliquer? Alors, pour répondre à cette question, il faut que l'on revienne, on en a un petit peu déjà parlé dans ce qui a été dit, mais il faut que l'on revienne à l'origine, pourquoi est-ce que c'est si important de reconstruire la maison de Dieu, le temple à Jérusalem? Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, c'est si important parce que ça fait référence à un projet divin qui est de tout temps, et on va voir comment il se décline. Ce projet divin, c'est le projet de Dieu de rencontrer les hommes, de nous rencontrer, d'être avec les hommes, et même plus que cela, d'habiter au milieu des hommes, au milieu de nous. Et alors, quand on parle de ce projet-là, ça fait référence à la notion du temple. Et on va donc prendre le temps de voir que cette notion du temple, elle fait référence d'abord à une réalité matérielle, c'est la réalité du temple de Jérusalem, mais aussi, elle fait référence à quatre réalités spirituelles qui sont différentes et que nous allons essayer de revoir ensemble et de redéfinir dans leur rapport réciproque. Alors d'abord, le temple, on l'a dit, il existe dans sa dimension matérielle. D'abord, c'est le tabernacle, ce temple portatif. Puis, c'est le temple à Jérusalem et qui a connu plusieurs étapes. C'est d'abord le temple de Salomon, qui a été détruit en 586, on l'a rappelé tout à l'heure. Puis, c'est le temple de Zorobabel, qui aussi a été détruit en 70. Et puis, c'est encore un troisième temple, le temple du millénium, et dont nous aurons aussi à parler pour comprendre le deuxième message. Le troisième message, pardon. Mais ce que l'on sait aussi, ce que l'on apprend dans la Bible, c'est que ce temple terrestre n'est qu'une copie d'un autre temple. Ce n'est qu'une copie d'un temple qui est dans le ciel. Il y a actuellement un sanctuaire dans le ciel, dans lequel le Seigneur Jésus se trouve, et où il exerce cette fonction de souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et voilà les versets qui nous permettent de comprendre cela. Dans Exode au chapitre 25, lorsque Dieu s'adresse à Moïse au sujet de la construction du tabernacle, voilà ce qu'il dit: « Regarde et fais selon le modèle qui t'en est montré sur la montagne. » Et aussi dans Hébreux 8, il est également dit des sacrifices de la loi qu'ils ne sont que la figure et l'ombre des choses célestes. Et puis aussi, et peut-être de façon plus directe, nous lisons dans Apocalypse 11 au verset 19, on est à ce moment de l'introduction du règne du Seigneur Jésus, à ce moment où la septième trompette retentit, c'est encore des événements qui sont futurs, et voilà ce qu'il est dit. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. Et puis aussi dans l'évangile de Jean, lorsque le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples, et où cet épisode où il parle de la maison de son Père, où il est en train de nous préparer une place, le mot qui est utilisé pour « maison de mon Père », c'est le même mot qui est utilisé dans Jean 2, lors de la première purification du temple. Et là, le mot est cette fois-ci utilisé pour parler du temple à Jérusalem, du temple terrestre, de la réalité matérielle. Voilà, donc nous venons de voir la réalité matérielle du temple terrestre, une première réalité spirituelle, ce temple qui est actuellement dans le ciel. Mais il y a encore une autre réalité spirituelle. Cette deuxième réalité spirituelle, c'est le temple du corps du Seigneur Jésus, en qui habite la plénitude de la déité. Dans Jean 2, dans l'épisode que je citais à l'instant, lors de la première purification du temple, le Seigneur Jésus a un échange avec quelques juifs, et assez rapidement, on comprend dans la discussion qu'il y a un quiproquo qui s'installe entre eux. Entre d'une part le temple terrestre à Jérusalem et le temple du corps du Seigneur Jésus. Voilà ce que nous lisons dans Jean 2 au verset 19 et 20. Jésus répondit et leur dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs donc dirent: on a été 46 ans à bâtir ce temple et toi tu le relèveras en 3 jours. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Et puis aussi un peu plus tard, dans Matthieu 12, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où les disciples cueillent des épis dans les champs parce qu'ils ont faim, et les pharisiens les accusent de profaner le sabbat. Et très vite, le Seigneur Jésus prend la défense des disciples. Et quand il prend la défense des disciples, voilà ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 12 et au verset 6, « Mais je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Et aussi dans le texte reçu, c'est dit un petit peu différemment, « Il est ici un plus grand que le temple. » Alors, comment comprendre l'expression ? Un petit peu avant que Jésus ne dise cette phrase, il s'adresse aux pharisiens et il leur dit, lorsque les sacrificateurs font leur office dans le temple, ça pose pas de problème, ils ne profanent pas le sabbat. Eh bien, de la même manière, mes disciples qui sont à mon service, cela ne pose pas de problème. Et Jésus défend ses disciples de cette manière. Alors, c'est un petit peu en filigrane, c'est pas direct, mais je crois qu'on peut lire qu'il y a là cette indication que le Seigneur Jésus veut dire que dans sa personne, il récapitule cette réalité du temple terrestre. Parce que, voilà, comme on l'a lu dans Jean 2 de façon plus directe, son corps est un temple dans lequel habite Dieu. Voilà, j'en ai fini avec la deuxième réalité spirituelle. La troisième réalité spirituelle correspond au temple que constitue chaque croyant. Et voilà ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 6, au verset 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu ? Et vous n'êtes pas à vous-même, mais vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Et puis, je passe maintenant à la quatrième réalité spirituelle, c'est que c'est le temple que forment ensemble les croyants, l'Église de Dieu. Et on en a beaucoup parlé ce matin. Lucien son message s'est beaucoup appuyé sur cette réalité que, effectivement, l'ensemble des croyants forment un temple dans lequel Dieu habite par son esprit. Voilà ce que nous lisons dans Éphésiens 2, au verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Alors voilà, c'était un peu long, mais simplement, maintenant, ça va me permettre de vous expliquer l'optique que je vais adopter pour aborder les trois prochains messages. Je vais aborder un schéma de lecture dans lequel on essaiera de distinguer ensemble deux choses. D'abord, le temple dans sa réalité terrestre, en lien avec l'histoire du peuple d'Israël, et on essaiera de comprendre le sens des paroles d'Agé en rapport avec le peuple d'Israël, et on verra qu'on peut en tirer des applications pour nos vies, des applications pratiques, et puis aussi, et donc ça ce sera la partie majoritaire, et puis aussi on essaiera de faire quelques liens avec les réalités spirituelles dont je viens de parler. Alors nous commençons tout de suite avec la lecture donc du deuxième message d'Agé, et nous lisons donc dans Agé chapitre 2, les versets 1 à 9. Au septième mois, le 21e jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète, disant « Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur. » Et au reste du peuple, disant, qui est de reste parmi vous qui ait vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez fort, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi, dit l'Éternel des armées, Encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche. Et j'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors nous venons de voir dans les versets 1 à 3 que nous venons de lire que le peuple est découragé par les comparaisons avec le passé. On comprend que ceux qui sont les plus âgés parmi le peuple ont connu le temple de Salomon avant qu'il ne soit détruit en 586 par les armées de Nebuchadnezzar. Et ils se souviennent de la gloire et de la magnificence de cet édifice. Et c'est vrai que c'était un édifice réellement hors norme. On sait qu'il a été construit en 7 ans, vers moins 1000 avant Jésus-Christ, et on en a une description dans 1 Roi 6, et c'est vrai que la description qui nous est donnée dans 1 Roi 6 témoigne vraiment d'un édifice qui était somptueux. Il est question de pièces qui étaient lambrissées de bois de cèdre, et les parois du lieu saint étaient d'or pur. Et puis, cet édifice aussi, on sait qu'il a été admiré par la reine de Sheba lors de sa visite officielle au roi Salomon. Et voilà ce qu'il est dit, j'ai pris ça dans la version Louis II, voilà ce qu'il est dit, « Elle fut hors d'elle-même lorsqu'elle vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie et aussi les holocaustes qu'il offrait dans la maison de Dieu. » Alors voilà, lorsque ces gens partagent leurs sentiments sur la situation, et puis lorsqu'ils ont le courage aussi de parler avec les bâtisseurs, eh bien, on comprend là qu'il y a une profonde source de découragement. Alors voilà, pour essayer de se mettre en situation, j'ai trouvé ce texte dans l'introduction au livre de la Bible de Ray Stedman, et je vous propose de le lire pour essayer d'actualiser peut-être avec des mots un peu plus d'aujourd'hui ce que ça a dû être effectivement cette confrontation et le découragement qui est survenu. Peut-être un jour, un homme âgé est-il venu voir le chantier. Appuyé sur son bâton, jetant un regard critique sur l'état d'avancement des travaux, il s'est peut-être exclamé « Vous appelez ça un temple ?» J'étais un petit garçon quand les Babyloniens ont détruit le temple de Salomon. Mais je n'oublierai jamais le superbe édifice que c'était. De l'or et de l'argent partout. Des colonnes sculptées, des tentures brodées. Ça, c'était un temple. À l'ouïe de ces paroles, les ouvriers en ont eu les bras coupés. Le découragement s'est installé parmi eux. Ils ont pu se dire, il a raison le vieux. Nous n'avons ni or ni argent, nous n'avons rien qui puisse rehausser l'éclat de cette construction et la rendre semblable au temple de Salomon. À quoi bon continuer ? De nouveau, ils rangèrent leurs outils et se dispersèrent. Mais il faut aussi qu'on se souvienne que ces différences d'appréciation, elles s'étaient déjà manifestées 14 ans plus tôt, lors de cet épisode que Samuel nous a rappelé tout à l'heure où on a posé les fondements du temple. Voilà ce que nous lisons dans Esdras 3, dans les versets 10 à 13. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs et d'entre les lévites et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix. Lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux, et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix, et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait. Alors voilà, on va faire une pause parce que je suis à peu près certain que cette situation-là, ce découragement, c'est des choses qui nous parlent. On peut très facilement s'identifier avec ces bâtisseurs qui sont découragés. Parce que, objectivement, dans nos vies, il y a de multiples sources de découragement. Les obstacles, les déceptions, la jalousie, la maladie, les complications que nous procurent nos propres errements, nos manques de foi, nos erreurs. Et je crois que je pourrais continuer la liste très longtemps. Et tout cela, c'est vrai, ça peut conduire à de la lassitude. Ça peut peut-être même conduire plus que cela à du doute. Peut-être même que certains d'entre nous, tous ici, je crois, qui sommes engagés dans le service pour le Seigneur, on peut arriver à se dire, mais ce que j'essaye de vivre à la gloire de Dieu, est-ce que ça a du sens? À quoi ça sert? Et ça m'a fait penser à cette parole de l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 8, lorsque lui aussi livre un peu ses sentiments, voilà ce qu'il dit. Car nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez quant à notre affliction qui nous est arrivée en Asie, que nous avons été excessivement chargés, au-delà de nos forces, de sorte que nous avons désespéré même de vivre. Alors voilà, je crois qu'il y a vraiment ce message pour nous aujourd'hui. Ce message que le prophète Agé nous donne, qu'il y a, même dans les situations difficiles, dans les situations où nous pouvons vraiment nous sentir profondément découragés, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a vraiment là dans le message d'Agé un profond message d'espoir. Et j'ai été personnellement très touché par le fait que c'est Dieu lui-même qui a invité son peuple à exprimer ce qu'il ressentait par rapport à la situation. On a lu dans le verset 3, « Comment voyez-vous cette maison maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux ?» Moi, j'ai été touché par le fait que c'est Dieu qui a posé cette question à son peuple. Alors voilà, ça nous ramène à ce fait que Dieu connaît ce que l'on ressent. Et il a ce désir de venir à notre secours, de répondre à ces angoisses que l'on peut avoir. Et voilà, on va voir juste après qu'il s'empresse d'encourager son peuple. Mais peut-être qu'il y a aussi une autre chose à voir dans ce fait que Dieu pose cette question, c'est que je crois que c'est aussi une manière d'aider le peuple à poser le bon diagnostic. Accepter ce que l'on ressent pour poser le bon diagnostic. C'est vrai que des fois, on peut avoir cette tendance, c'est peut-être parce que c'est plus facile aussi d'avoir du mal à affronter ce qui ne va pas dans nos vies individuelles ou collectives. Et là, je crois vraiment qu'il y a un message vraiment percutant, moi, qui m'a percuté de la part de Dieu pour dire non, regardez les choses telles qu'elles sont vraiment. Un peu un appel à la lucidité. Trouver ce courage de la lucidité dans nos vies, voilà, dans nos vies personnelles et puis aussi dans nos vies collectives pour que le Seigneur puisse faire son travail. Alors, voilà, je disais que immédiatement, Dieu a le souci d'encourager les bâtisseurs découragés. Et alors, on va voir comment il le fait. Il le fait en argumentant les choses en trois points. D'abord, il appelle chacun à être fort. Et l'appel, on l'a vu, il est adressé à Zorobabel, puis à Joshua, et puis aussi à tout le peuple. Il appelle chacun à être fort, à poursuivre l'ouvrage, travailler, on a lu dans le texte, parce qu'il y a des raisons objectives de ne pas se décourager. Alors d'abord, il y a, à la fin du verset 4, la promesse renouvelée de la présence de Dieu. « Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Et puis, dans le verset 5, il y a aussi l'assurance que les promesses qui ont été faites au peuple il y a 970 ans, puisqu'il est question des promesses qui ont été faites au moment où le peuple est sorti du pays d'Égypte, que ces promesses-là sont toujours d'actualité. Que Dieu continue à conduire son peuple et qu'il continue à le protéger par son Saint-Esprit. Alors, ces paroles d'alliance, elles nous sont rapportées dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits, notamment dans l'Exode, au chapitre 19, au moment où donc il y a ce don de la loi, mais aussi dans d'autres textes. Et notamment, j'ai choisi de vous lire quelques extraits ce matin de Deutéronome chapitre 7, dans les versets 6 à 9, parce que j'ai trouvé que dans ce texte-là, qui parle de ces paroles-là, de ces paroles d'alliance, il y a des choses très encourageantes. Alors voilà ce que nous lisons dans Deutéronome 7, dans les versets 6 à 9. L'Éternel parle à son peuple, et voilà ce qu'il lui dit. « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte. » Un peu plus loin, « Le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » Dieu dit à son peuple, « Si je vous ai choisi, c'est pas parce que vous étiez le plus grand des peuples. Si je vous aime, c'est pas parce que vous êtes, c'est pas parce que vous faites. Je vous aime parce que je vous aime. Je vous aime parce que j'ai décidé de vous aimer. » Et ça aussi, je trouve que c'est une source d'encouragement extrêmement profonde dans nos vies, de savoir que Dieu nous aime parce qu'il le décide. Il nous aime, voilà, gratuitement, parce que c'est dans son cœur de nous aimer. Alors voilà, face au découragement, Dieu dit à son peuple la force de son amour. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous dit « je t'aime », quand ça va pas, eh bien, on ressent le bienfait que c'est de quelqu'un qui dit « je t'aime ». Et Dieu dit cela à son peuple, et Dieu nous dit encore cela. « Je t'aime, je vous aime, je connais vos difficultés, mais c'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes. Je vous aime. » Et puis, on continue donc dans notre texte. Dans les versets 6 à 9, il y a cette fois la référence à un avenir proche où les bâtisseurs ont l'assurance que le nouveau bâtiment qu'ils sont en train de construire connaîtra une gloire incomparable. L'Éternel dit « L'argent est à moi et l'or est à moi et la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. » Et puis dans les versets 6 et 7, il y a une analogie qui est faite avec ces événements naturels qui ont accompagné dans Exode 19 le don de la loi. Il y a eu ces éclairs dans le ciel, il y a eu ce tremblement de terre, et donc là il est question que les cieux et la terre soient ébranlés, et l'Éternel dit qu'il y aura cet ébranlement des nations au moment où il donnera cette gloire nouvelle au temple. Alors, on arrive au cœur du deuxième message. Et en même temps, on arrive à la partie que personnellement j'ai trouvée la plus difficile. Parce que la question que l'on peut se poser, c'est à quoi correspondent ces événements? Est-ce que c'est une prophétie qui s'est déjà réalisée pour le peuple d'Israël, ou au contraire, est-ce qu'elle correspond encore à des événements futurs, ou encore est-ce que ça peut être une combinaison de ces deux possibilités? Alors on va essayer ensemble de répondre à ces questions, mais pour le faire, on va prendre un petit peu de temps, et voilà, ça va être un petit peu aride et je m'en excuse auparavant, mais parce qu'on a besoin de travailler ensemble sur une expression qui est un petit peu difficile, et une fois qu'on sera fort ensemble de ces éléments de compréhension, ça va nous aider après à comprendre les différentes façons de comprendre ces versets difficiles, les versets 6 à 9. Cette expression un peu difficile, c'est l'expression du verset 7, lorsqu'il est dit « et l'objet du désir des nations viendra ». Ça, c'est ce que l'on a lu dans la version Darby. Mais si on compare avec d'autres versions, par exemple la seconde 21, il est question des trésors de toutes les nations. Ou encore dans la version Parole de vie, il est question des richesses des peuples. Alors, ces deux familles de traductions, en fait, elles correspondent à une vraie difficulté qu'ont rencontré ceux qui ont traduit la Bible. C'est à la fois de traduire une phrase dans laquelle il y a un verbe au pluriel, viendront, et un nom au singulier, le désir. Et en définitive, Alors moi, je ne suis pas capable de vous d'expliquer ça, mais ce que l'on peut retenir, c'est que cette expression, on peut la comprendre de deux façons. La première façon, c'est de comprendre que quand il est dit « l'objet du désir des nations viendra », il est question d'une personne de valeur. Et on a un usage similaire dans Daniel 9 au verset 23, lorsqu'il est dit « tu es un bien-aimé » au sujet de Daniel. Voilà, la première façon de comprendre cette expression, c'est qu'il s'agit, l'auteur, Agé, est en train de parler d'une personne de valeur qui viendra. Et puis l'autre façon de comprendre, c'est qu'il pourrait aussi s'agir de biens de valeur. Et là, ce serait un usage qui serait plutôt proche de ce qu'il est dit dans Daniel 11 au verset 43, où il est question des choses désirables de l'Égypte. Alors voilà, on a posé cette première chose. Et puis l'autre chose que je voudrais aussi poser avant qu'on rentre plus proprement dit dans comment comprendre cette prophétie, c'est que le mot gloire, il peut aussi désigner deux choses. Il peut désigner à la fois la splendeur matérielle, la gloire d'un édifice, la gloire d'un temple, mais aussi dans la parole de Dieu, chaque fois que Dieu remplit sa maison de gloire, il y a une nuée qui est aussi présente et qui signifie que Dieu est présent. Voilà, donc on a ces deux façons de comprendre l'objet du désir des nations viendra, et puis ce mot gloire qui peut faire référence à deux manières de comprendre. Alors, avec tout ce qu'on vient de rappeler, il y a des éléments dans la parole qui nous montrent qu'effectivement la prophétie d'Agé, elle a déjà été partiellement réalisée, et notamment dans Esdras 6, dans les versets 3 à 5. Nous lisons ceci. Alors en fait, je voulais commencer plutôt par les versets 14 et 15. Nous lisons « Et les anciens et les juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie, fils d'Ido, et ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre de Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerces, roi de Perse. Et cette maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, c'était la sixième année du règne du roi Darius. » Donc effectivement, il y a eu ce message d'encouragement, ce deuxième message d'encouragement, et 6 ans plus tard, effectivement, la maison de Dieu a été reconstruite. Et puis aussi, Samuel nous a expliqué tout à l'heure cet arrêté de Cyrus qui a été pris et qui a permis effectivement que la maison soit reconstruite. Cet arrêté prévoyait que les dépenses soient payées par le royaume babylonien. Et il avait été oublié, cet arrêté, mais on lit aussi dans Esdras 6, dans les versets 3 et 5, que Darius le redécouvre et que effectivement les dépenses ont été assumées par Darius, et donc que lorsque dans ce que nous venons de lire, il a été question de cette gloire et de l'or et l'argent qui sont à moi, dit l'Éternel, eh bien ça peut correspondre effectivement à ce fait que des richesses ont été amenées pour bâtir la maison de l'Éternel. Et puis, le dernier point que je voudrais développer aussi, c'est que assez longtemps, le temple de Zorobabel a été sans gloire particulière, mais on sait que, de l'histoire profane, que vers moins 20 avant Jésus-Christ, le roi Hérode a investi de ses richesses personnelles pour embellir de façon assez considérable le temple de Zorobabel. Il a été agrandi. Et donc, ça peut aussi correspondre à ce que nous lisons dans la prophétie d'Agé, ce temps futur d'une gloire particulière pour cet édifice. Alors là, ce que je viens de décrire, c'est plutôt, si on comprend l'expression « et l'objet du désir des nations viendra », comme ces richesses matérielles qui sont venues, qui seraient venues pour aider à la construction. Mais on a vu aussi l'autre famille de traduction, et qui correspond plutôt à ce que l'on trouve dans nos versions Darby. Cette famille qui consiste plutôt à voir une personne désirable, quelqu'un qu'on attend. Et alors effectivement, ça m'a fait penser à cette situation dans le temple à Jérusalem, lorsque le vieux Siméon est dans le temple et il a attendu toute sa vie de voir le Messie. Et effectivement, il a eu ce privilège de voir le Messie. Et dans Luc 2, au verset 29 à 32, nous lisons « Maintenant Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple, Israël. Alors en effet, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il a foulé les allées du temple de Zorobabel, eh bien oui, on peut dire que ce temple a été rempli de cette gloire promise, comme nous l'avons lu dans Agé au chapitre 2, dans les versets 6 à 9. Et puis aussi, ça m'a fait penser à cette expression, à ce qu'il est dit dans Jean 1, verset 14, « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Voilà, on vient de voir des éléments qui nous permettent de dire que cette prophétie, elle a été déjà partiellement réalisée. Mais pour autant, est-ce que on peut considérer qu'elle est totalement réalisée? Et puis, une autre question que l'on peut se poser, c'est que si effectivement ces versets doivent encore avoir une réalisation future, c'est est-ce qu'il faut attendre une réalisation littérale, c'est-à-dire un nouveau temple à Jérusalem, un temple physique, ou est-ce qu'il faut considérer que les bénédictions spirituelles de la Nouvelle Alliance, celles dont nous jouissons, est-ce que ces bénédictions-là, finalement, est-ce qu'elles ne sont pas aussi la réponse de Dieu pour Israël? Alors, ma préférence va évidemment, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, sur le fait que il faut encore attendre une réalisation à travers un temple physique et matériel. Parce que si on le faisait pas, alors c'est peut-être pas un argument très fort, mais ça veut dire que l'on ne ferait aucun lien entre le retour récent du peuple d'Israël dans la terre d'Israël depuis 1948, et puis ce que l'on comprend de l'eschatologie, de comment vont se dérouler les prophéties que nous avons dans la Bible. Et puis aussi, ça conduirait à avoir je trouve, de mon point de vue, une difficulté, par exemple, avec ce que nous trouvons dans Romains 11, dans les versets 11 à 15, où voilà ce qu'il est dit au sujet du peuple d'Israël. « Or, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude ?» C'est vrai que la chute d'Israël a été notre bénédiction, parce que le message du salut a été donné à tous, et nous sommes bénéficiaires de ça. Mais l'apôtre Paul dit, voilà, si leur chute a été cette bénédiction, combien plus le sera leur plénitude? Et je crois que cette plénitude-là dont il est question, elle fait référence à un temps encore futur qui correspond au temps d'Agé, dans les versets 6 à 9. Ce temps où effectivement, il y aura un nouveau temple à Jérusalem, et où ce temple sera rempli de gloire. Alors, je vais peut-être passer assez vite, mais c'est assez beau de voir comment chaque partie dans le texte trouve sa place par rapport à d'autres éléments dans la Bible. Il est question, dans ce que nous avons lu, de l'ébranlement des éléments naturels. Et c'est vrai qu'il arrive pour nous, on le sait, ce temps de jugement des nations. Cette 70e semaine de Daniel, dont il est dit qu'elle sera l'heure de l'épreuve ou un commencement de douleur, et puis même le temps de la colère de Dieu lorsque le sanctuaire aura été profané, et à Jérusalem donc, ce qui signifie que le troisième temple aura déjà été reconstruit, il y aura cette intensification des jugements, et voilà, ça étreint toujours nos cœurs de penser que notre environnement, les choses dans lesquelles nous évoluons, tout cela va connaître un jugement de la part de Dieu. Et puis aussi, après ce jugement, les nations aspireront à la paix. Et là, on comprend aussi comment l'expression « et l'objet du désir des nations viendra ». Après le temps de jugement, il y aura effectivement ce désir des nations de connaître une paix nouvelle, de connaître une justice nouvelle. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il viendra dans son règne, eh bien, il y aura effectivement ce temps de 1000 ans sur la terre où il y aura la paix, la justice sera établie, et tous les hommes pourront bénéficier de ce règne de justice du Seigneur Jésus. Voilà, je vais peut-être passer un peu plus vite sur ces choses-là, mais Voilà, il y a des textes, et c'est très beau de voir dans l'Ancien Testament un certain nombre de textes qui s'harmonisent vraiment avec ce que l'on trouve dans notre prophétie. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on peut s'appliquer cette partie de la prophétie d'Agée. Et pour ce faire, je vais faire appel à une des réalités spirituelles que j'évoquais en introduction, cette réalité spirituelle que chaque croyant, chacun d'entre nous qui connaissons le Seigneur Jésus, nous sommes ce temple par lequel il habite par l'Esprit. Et je trouve que on peut faire ce parallèle avec cette gloire future du temple de notre prophétie d'Agée, avec ce qu'il est dit dans Colossiens 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alors c'est sûr, cette espérance de gloire, elle se réalisera de façon certaine lorsque nous serons auprès du Seigneur Jésus. Mais je crois aussi que c'est déjà pour nous aujourd'hui, nous avons déjà cette possibilité de faire briller la gloire de Christ dans nos vies. Ou si je le dis d'une façon un peu différente, nous avons nous aussi cette possibilité de vivre déjà dans la réalité du royaume de Dieu, dont il est dit dans Marc au chapitre 1 et au verset 15, et dont il est dit qu'il s'est approché, que ce royaume de Dieu s'est approché. Et je suis sûr que on a tous en tête des croyants, des personnes qui ont joué un rôle particulier pour nous, parce qu'elles ont illustré cette réalité, ce fait pour ces personnes, en voyant vivre ces personnes, il y avait cette gloire de la présence de Dieu. Alors, on peut, en s'inspirant de ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 4 et au verset 6, on pourrait dire que dans ces personnes, Dieu a reluit dans le cœur de ces personnes pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Alors, tout ça m'a amené à penser finalement que peut-être bien que la recherche de la présence du Seigneur Jésus dans nos vies, dont le prophète Agée a dit qu'elle était si importante pour retrouver le courage, et bien que la recherche de la présence de Dieu dans nos vies, c'est peut-être finalement la seule chose dont on devrait vraiment se préoccuper. Parce que quand Dieu vit en moi, quand Jésus vit en moi par l'Esprit, tout trouve sa place d'une façon plus simple. Ça va m'inspirer les attitudes, ça va m'inspirer les prises de parole, ça va faire que, sans que je m'en rende compte, Dieu va montrer quelque chose à travers moi et ainsi je vais pouvoir rayonner de sa gloire parce que c'est lui qui le fait. Et voilà, je voulais partager avec ça parce que je trouve que c'est un profond encouragement à rechercher vraiment la présence de Dieu dans nos vies. Et alors, peut-être qu'on peut formuler ensemble cette prière du psaume 27 et au verset 4. « J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. » Mais je voudrais encore prendre quelques instants pour creuser avec vous cette question de la présence de Jésus dans nos vies. Et je me suis livré à ce petit exercice qui est de relire certaines scènes de l'Évangile en se disant quand le Seigneur Jésus est là, lorsque dans la scène de l'Évangile il est là, mais si je transpose ce qui se passe dans la scène, lorsque Jésus est là dans ma vie, dans mon cœur, lorsque Jésus est là entre nous, dans nos relations, qu'est-ce que ça change ? Et je voudrais juste vous donner trois exemples et vous encourager à poursuivre l'exercice. Dans Luc, au chapitre 7, avec Marie de Magdala, qui essuie les pieds du Seigneur Jésus avec ses cheveux, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, avec cette scène, nous apprenons que lorsque le Seigneur Jésus est là, le regard des autres disparaît et permet à la vérité du cœur de chacun de s'exprimer. Voilà, c'est très dense ce que je dis, mais lorsque le Seigneur Jésus est là, des fois on se pose plein de questions sur est-ce que je suis libre de faire ceci, de faire cela. Si le Seigneur Jésus est là, s'il est dans mon cœur, alors je peux me lancer parce que quand il est là, la vérité de mon cœur peut s'exprimer. Le Seigneur Jésus l'a permis dans cette scène qui nous est rapportée dans Luc au chapitre 7. Dans Luc au chapitre 22, une autre scène, il s'agit de cette scène où il y a une contestation entre les disciples pour savoir qui va être le plus grand. Je lis pas la scène parce qu'on n'a pas le temps, mais lorsque le Seigneur Jésus est là, il n'est plus question de savoir qui est le plus grand, parce que lui est le maître, et que dans son royaume, la grandeur est faite d'humilité. Et puis une dernière scène dans Luc 10, c'est la scène de Bartimée, l'aveugle, qui recouvre la vue. Lorsque le Seigneur Jésus est là, nous vivons des guérisons intérieures, à l'image de ces guérisons physiques que le Seigneur Jésus a accordées à tous ceux qui s'approchaient de lui. Alors voilà, avec la prophétie d'Agé, vivons l'espérance qui est la nôtre. Faisons briller la gloire de Dieu dans nos vies, à l'image de ces bâtisseurs dont l'espérance était de voir un jour le temple rempli de la gloire de Dieu. Ça va, c'est pas trop rapide. On va passer, c'était dense hein, ce qu'on m'avait confié, les trois messages, c'était dense. On va passer donc sans transition au troisième message. Et donc on va en faire la lecture tout de suite. Donc nous lisons dans Agé chapitre 2, dans les versets 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, dans la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint par Agé, le prophète, disant « Ainsi dit l'Éternel des armées, interroge les sacrificateurs sur la loi, disant « Si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe, et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelque mets, ou du vin ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché sera-t-il sanctifié ?» Et les sacrificateurs répondirent et dirent « Non ». Et Agé dit « Si un homme est impur par un corps mort qui... Excusez-moi. Si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure ?» Et les sacrificateurs répondirent et dirent « Elle est impure ». Et Agé répondit et dit « Ainsi est ce peuple et ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains. » Et ce qu'il présente là est impur. Et maintenant, considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver dès ce jour et dorénavant, avant qu'on ne mît pierre sur pierre au temple de l'Éternel, avant que ces jours fussent, si on venait à un tas de 20 boisseaux, il y en avait 10, et si l'on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il y en avait 20. Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille et la grêle dans toute l'œuvre de vos mains. « Et aucun de vous n'est revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez le bien, je vous prie, dès ce jour et dorénavant, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez le bien. La semence est-elle encore dans le grenier ? Même la vigne et le figuier et le grenadier et l'olivier n'ont pas porté de fruits. Dès ce jour-ci, je bénirai. » Alors le troisième message, comme je l'ai dit en introduction, il se situe 3 mois après la reprise des travaux de construction de la maison de Dieu. Et de façon assez évidente, les travaux de construction ne sont pas encore terminés et les bâtisseurs ne voient pas encore la gloire de cet édifice qui a été promise dans le deuxième message. Et puis de plus, le peuple souffre encore de ses mauvaises récoltes. J'ai appris effectivement que dans cette région, les semailles viennent juste d'avoir lieu, on est au mois de décembre, et elles n'ont pas encore donné lieu aux nouvelles récoltes. Et dans ce contexte, d'un peuple qui souffre encore finalement de ses errements passés, eh bien, Agé adresse un nouveau message d'encouragement pour assurer le peuple de la bénédiction de Dieu. « Dès ce jour, je bénirai », on a lu au verset 19. Et le sens de ce message, je crois que c'est celui-là, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que puisque le peuple a remis en ligne ses priorités avec celles de Dieu, en décidant de reconstruire la maison de Dieu, eh bien les effets de la bénédiction vont bientôt se faire sentir, mais il faut encore patienter un peu. Alors, voilà, c'est le texte est difficile. Moi, je l'ai trouvé difficile et on va essayer de comprendre comment chaque partie du texte trouve sa place. Alors d'abord, dans les versets 10 à 13, on a lu cet échange un peu technique entre Aggé et les sacrificateurs au sujet de deux questions légales relatives à la sainteté et à l'impureté. Et en résumé, il sort de cet échange que une chose sainte ne peut pas purifier ce qu'elle touche et qu'une chose impure, à l'inverse, souille ce qu'elle touche. Et puis, dans le verset 14, et là, Aggé, dans son rôle de prophète, il applique l'échange, la nature de cet échange avec les sacrificateurs, qui étaient les garants de la loi, c'était leur rôle, il applique les conclusions à la situation du peuple. Et voilà ce qu'il est dit. Et Aggé répondit et dit, « Ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains, et ce qu'ils présentent là est impur. » Alors, je trouve que, en tout cas, moi, ça me pose difficulté, c'est comment faire le lien entre ce qu'il est dit dans les versets 10 à 13, l'enseignement qu'il en ressort, comment faire le lien avec tout ça, et puis aussi le fait que Aggé parle 3 mois, donc, après la reprise des travaux. Et c'est comme si finalement on avait l'impression que, malgré le fait que les bâtisseurs se sont remis à l'ouvrage, eh bien, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Alors on va voir que c'est vrai, mais aussi que cette situation n'est que transitoire et qu'elle va bientôt prendre fin. Alors pour expliquer cela, on va revenir à ce que Lucien nous a lu au chapitre 1, parce que avant que le peuple ne décide de reprendre la construction de la maison de Dieu, sa désobéissance le rendait impur devant Dieu. Et tout ce qui résultait du fruit de son travail, du travail des mains, tout cela était présenté en sacrifice, mais Dieu ne l'acceptait pas. Dieu ne pouvait pas l'agréer. Et voilà ce qu'il est dit dans Aggé 1 au chapitre 9. Vous vous attendiez à beaucoup, et voici ce n'a été que peu. Et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. Et donc, on comprend que, puisque les fruits de la nouvelle récolte ne sont pas encore disponibles, eh bien, on comprend que la situation va encore durer un peu transitoirement. Et c'est comme cela que je comprends ce verset 14 où Dieu dit que le peuple reste impur devant lui, devant ses yeux. Et puis, je voudrais aussi faire état d'une autre façon de comprendre, parce que le prophète Zacharie, Samuel nous l'a expliqué, qui prêche au même moment que Aggé, donc c'est sur nos Bibles, c'est la page tout de suite à côté, le prophète Zacharie prêche juste avant le 9e mois, au 8e mois, mais en tout cas après la reprise des travaux, et au 8e mois, il appelle encore le peuple à revenir vers l'Éternel. Alors c'est possible que parmi le peuple, il y ait encore eu des bâtisseurs, qu'il y ait eu encore des personnes qui avaient besoin d'entendre ce message d'appel et que eux aussi rejoignent ceux qui avaient déjà décidé de reconstruire la maison. Et puis donc, dans les versets 15 à 19, Aggé encourage ses concitoyens à regarder vers l'avenir. Et le raisonnement d'Aggé est le suivant, et il leur dit « Autant vous avez souffert dans un passé récent de vous être éloigné de Dieu, au verset 17 on lit « Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille et la grêle dans toute l'œuvre de vos mains, autant vous avez souffert, autant vous pouvez désormais compter sur la bénédiction de Dieu. » Dès ce jour-ci, je bénirai. Alors, voilà, nous arrivons peut-être maintenant à cette partie où que prendre de ces choses, comment nous les approprier. Je crois que c'est vraiment fondamentalement dans la nature de Dieu de nous bénir. Il prend plaisir à nous bénir. Et il le fait alors même qu'on en est le plus souvent indigne. Dans le psaume 103, versets 10 et 11, nous lisons « Il ne nous a pas fait selon nos péchés. » Excusez-moi, je rattrape mon retard par rapport au texte. Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la mer, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Alors oui, la recherche de la sainteté dans nos vies, c'est une condition pour que Dieu puisse nous bénir. Le prophète Agé met clairement en évidence que lorsque le peuple lui apporte les fruits de ses récoltes en restant éloigné de lui, le peuple reste impur devant lui. Mais nous devons garder à l'esprit que ce à quoi Dieu est sensible, c'est à l'état de nos cœurs. C'est pas à nos actes religieux extérieurs, c'est à la réalité de l'intérieur de nos cœurs. Et ça m'a fait penser à ce verset dans 1 Samuel 16 au verset 7 où il est dit « L'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. » Et puis un enseignement aussi important que nous trouvons au sujet de la souillure dans le Nouveau Testament, c'est qu'elle trouve son origine dans nos cœurs et pas dans ce qui nous est extérieur. Dans Marc 7 au verset 15, nous lisons « Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. » Alors voilà, tout ça nous encourage, à, comme c'est dit dans les Proverbes, à faire attention à nos cœurs. Dans Proverbe 4, verset 23, il est dit « Gardez vos cœurs plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Et puis un autre enseignement, et je passe rapidement, mais c'est que, à partir de ce que nous trouvons dans la parabole de Luc 15 au sujet du fils prodigue, c'est que lorsque nous revenons à Dieu, il est toujours prêt à nous accueillir comme un père accueille ce fils qui est parti loin, mais qui revient sur lui-même, qui regrette, qui se repent et qui veut retrouver la relation avec son père. Et puis, le troisième message d'Agé, c'est peut-être aussi l'occasion de dire un mot au sujet de cette réalité spirituelle dans la Nouvelle Alliance de notre sanctification en Jésus-Christ. Dieu a fait de nous des saints au moment de notre régénération. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 6, verset 11. « Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » D'une certaine façon, le péché dans nos vies, ça, c'est comme une anomalie. Et l'apôtre Jean dit, dans sa manière qu'il a d'être direct, « Vous ne pouvez pas pécher. » Et pourtant, nous faisons cette expérience que le péché est encore une réalité dans nos vies. Mais voilà, je voulais juste mettre devant nos cœurs ce fait que notre sanctification est une œuvre progressive. C'est pas quelque chose où on passe... Voilà, on fait un bond d'un coup et puis ça y est, on a compris et j'ai plus de problème avec ça. C'est une œuvre progressive qui fait intervenir à la fois Dieu, mais qui mobilise aussi notre volonté et notre désir. Et voilà, juste deux versets pour étayer ce que je viens de dire. Ce côté de Dieu, dans Hébreux 13, au verset 20-22, que le Dieu de paix vous rendre accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Dieu nous rend accompli pour faire sa volonté, c'est son côté. Mais aussi, notre adhésion nécessaire, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, et jusqu'au chapitre 7, verset 1, « Car vous êtes le temple du Dieu vivant, ayant donc ses promesses bien aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Voilà, j'ai fini avec le troisième message et on passe au quatrième. On est presque arrivé. Voilà, donc on lit Agé chapitre 2 et les versets 20 à 23. Et la parole de l'Éternel vint à Agé pour la seconde fois le 24e jour du mois, disant, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, disant, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la puissance des royaumes des nations, et je renverserai les chars et ceux qui les montent, et les chevaux seront abattus, et ceux qui les montent, chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te mettrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. On l'a vu tout à l'heure, le quatrième message, il est aussi délivré au neuvième mois, c'est-à-dire que le même jour que le troisième dont on vient de parler. Mais cette fois, c'est un message personnel à Zorobabel. Alors Agé fait une nouvelle fois allusion à ces temps futurs d'établissement du royaume du Seigneur Jésus, mais l'optique est un peu différente. Dans le troisième message, c'était plutôt le côté de la restauration, de l'adoration de Dieu qui était développé. Et là, cette fois, c'est plutôt le côté politique, parce que Zorobabel est présenté comme le serviteur que l'Éternel mettra comme un cachet. Alors, il faut qu'on arrive à comprendre ce que ça veut dire, cette image du cachet. Alors le cachet, c'est un petit objet que l'on tenait soit autour du doigt, comme une bague, mais j'ai compris aussi que ça pouvait être quelque chose qu'on portait autour du cou. Et en fait, ça avait un peu le même rôle que notre signature d'aujourd'hui. C'était ce que l'on apposait sur un document officiel pour le valider, pour confirmer le contenu. Et donc, il est dit que Zorobabel sera mis comme un cachet de l'Éternel. Alors, pour comprendre toute la portée de l'expression, on va lire deux versets. Dans Jérémie, deux passages où il est aussi question du cachet. C'est d'abord Jérémie 22, verset 24. Et donc là, il est question du grand-père de Zorobabel, de Jéhoiakim. Et voilà ce qu'il est dit. « Je suis vivant, dit l'Éternel, que quand même Konia, et c'est Jéhoiakim, c'est le même personnage, fils de Jéhoiakim, roi de Juda, serait un cachet à ma main droite, je t'arracherai de là. » Et puis au verset 30, juste un peu après, nous lisons « Ainsi, dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, car de sa semence, nul ne prospérera, assis sur le trône de David ou dominant encore en Juda. » Voilà, on comprend que Jéhoiakim a été enlevé comme un cachet qu'on enlève de son doigt pour signifier que la royauté lui était enlevée. Et donc, on comprend que si Dieu est en train de dire à Zorobabel « Je te mettrai comme un cachet », eh bien Dieu est en train d'annuler cette malédiction. Zorobabel apprend qu'il est réintroduit dans la lignée du Messie. Et nous lisons dans Matthieu 1 au verset 11, nous voyons apparaître Zorobabel dans la lignée du Messie. Voilà. Josias engendra Jéconias, c'est un autre nom pour Jéhoiakim, et ses frères lors de la transportation de Babylone. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Shaltiel, et Shaltiel engendra Zorobabel. Et ensuite, on a le Seigneur Jésus qui vient dans la liste. Alors, voilà, ça nous fait penser que... Ça m'a fait penser à cette bonté de Dieu dont il est dit qu'elle est de génération en génération. Il y a eu ce faux pas de Jéhoiakim, il y a eu ce retour. Eh bien, Dieu redonne sa bénédiction, Dieu réintroduit dans la lignée du Messie. Et ça, c'est évidemment quelque chose aussi qui nous encourage beaucoup, cette bonté indéfectible de notre Dieu qui veut nous bénir, qui se plaît à nous bénir. Voilà, j'ai été trop long, je conclue. J'ai introduit ma conclusion, ce qu'il est possible de faire en 4 mois. En 4 mois, le peuple de Dieu passe d'une situation où tout va de travers à une situation où il va bientôt pouvoir ressentir les bienfaits de la bénédiction divine. Et notre sujet, c'était comment prospérer en 2015 par la prophétie d'Agé. Alors, je vous propose un résumé, mais on va travailler ça cet après-midi en atelier. Un résumé des points qui m'ont paru importants. Je ne dis pas que je suis exhaustif, mais c'est ceux qui m'ont particulièrement touché. Il y a la question de nos priorités. Il y a aussi la question du courage de la lucidité lorsque nous nous sommes égarés. Il y a aussi notre désir et notre volonté de revenir à Dieu dans un esprit de repentance. Et c'est vrai que l'esprit de repentance, c'est pas du tout à la mode dans notre société. Parce que se repentir, dire j'ai fait une erreur, c'est dire je suis faible. Et la société, socialement, on n'accepte pas ça. Et pourtant, dans le cœur de Dieu, il y a cette... comment dire, Dieu attend cette repentance. Parce que se repentir, excusez-moi, je crois que vous allez comprendre ce que je dis, c'est pas un problème. On revient à Dieu, on revient à notre Père. Et Dieu attend qu'on revienne vers lui. Alors voilà, se repentir, si ça n'a pas été, il faut qu'on trouve ce courage de le faire. Et puis, dans cette disposition de nos cœurs, ce désir profond de Dieu de déverser sa bénédiction sur nos vies pour les remplir de sa gloire et en être ainsi lui-même glorifié. Voilà, j'ai terminé. Que Dieu bénisse sa parole et puis qu'il nous accompagne aussi cet après-midi pour continuer à creuser ce message.